que des hits. D'heure en heure, 7 sur 7, CJSO 101.7. À CJSO 101.7, avec Luc Deloncourt, à deux, c'est mieux.
Et parlant de hits, Renaud Paradis.
Ah oh, mon Dieu. Comme... S'il vous plaît, restez assis.
Comment vas-tu?
Ça va bien, merci.
Renaud, t'es là pour parler du spectacle Brel Barbara Héros Fragile.
Voilà.
Qui roule depuis longtemps, on l'a vu, nous, à Sorel, il y a déjà un petit moment. Comment il est né, ce show-là? Parce que toi, Brel, tu le chantes depuis longtemps, 2004.
Oui,
tu faisais
oui.
déjà un show Brel.
Exactement, j'ai commencé à chanter Brel à l'école de théâtre. Dès ma sortie, j'ai pondu une première mouture de ce spectacle-là sur Brel. Puis c'est un spectacle qui m'a suivi, genre, jusqu'en 2007, que j'ai fait avec grand bonheur. Mais là, le spectacle « Brel et Barbara, héros fragiles » est né d'être de mon amitié avec Julie Daou, ma grande complice et collègue. On était frères et sœurs dans l'auberge du Chien Noir pendant 15 ans. Puis ce que les gens savent peut-être pas, c'est que moi, je suis plus vieux que Julie, mais elle jouait ma sœur aînée. Donc, c'était moi qui étais le plus jeune dans l'auberge, mais c'est moi qui est le plus vieux dans vie. Fait que c'était très bizarre. Mais j'ai été son moniteur dans les camps de vacances. Donc ça remonte à très loin, notre amitié, notre relation. Et après l'auberge, après la belle aventure aussi du Caboose Band, qui nous a amenés ici d'ailleurs, je me rappelle qu'on était venu faire une entrevue avec toi ici, on a eu envie de se retrouver sur scène. Je l'ai entendu chanter dans le cadre d'un corpo qu'on a fait ensemble. Je l'ai entendu chanter « Dis quand reviendras-tu » de Barbara. Et là, j'ai vraiment eu un espèce de coup de cœur. Je me suis dit, mais il y a là une rencontre entre une interprète puis un répertoire. Il y a vraiment, là, ça y va comme un gant. Elle a la sensibilité, elle a la voix pour le faire. Puis c'est un peu l'impression que j'avais eue, moi, quand j'ai rencontré le répertoire de Brel. J'ai fait, waouh, ça, il me semble que ça me parle énormément, ça résonne en moi. Puis je pense que je suis un bon véhicule pour transmettre ces chansons-là, ces textes-là. Et donc, j'ai dit à Julie, il faut que tu chantes du Barbara. Et là, on a eu une carte blanche dans une maison de la culture à Montréal pour créer un spectacle. Venez donc nous présenter quelque chose. Puis là, on a fait, le moment est parfaitement choisi. Allons-y. On s'est enfermé dans un chalet pendant 3 jours, puis on a pondu ce spectacle-là qui raconte, comme point de départ en tout cas, ça raconte l'amitié qui avait, la grande amitié qu'il y a eu entre Brel et Barbara, qui ont été amis quand même, ça a commencé assez jeune, dans leur vingtaine, et jusqu'à la mort de Brel, ils ont été très amis. On ne sait pas s'il y a eu autre chose au début, puis que ça s'est transformé en amitié, ça, l'histoire ne le dit pas, mais ils étaient vraiment très, très complices. Ils pognaient des postes, tous les deux. Il y avait comme un poste qui pognait ensemble. Il y avait comme une complicité, mais vraiment indescriptible, qui échappait aux autres. Donc, on avait vraiment l'impression, quand ils étaient ensemble, qu'il y avait une bulle autour d'eux. On comprenait pas. Ils se disaient des affaires. On comprenait pas, mais eux se comprenaient. On l'entend d'ailleurs dans le spectacle. On avait l'impression qu'ils parlaient une troisième langue, qu'ils étaient tout seuls à comprendre, tous les deux. Donc, c'est ce genre de complicité-là, très intense. Puis, donc, on a créé... À partir de ce lien-là, on a créé un spectacle qui explore ce thème-là de l'amitié entre les deux, mais aussi qui, évidemment, on parle aussi de Brel tout seul et de Barbara tout seul. On raconte certaines anecdotes de leur vie que nous, on a mis en scène, qu'on a théâtralisé. Et on entend beaucoup d'archives sonores qui nous racontent des bouts de leur vie ou qui nous parlent du caractère de l'un puis de l'autre. Fait que c'est comme ça que ce show-là est né.
Est-ce que tu le savais, ça, cette amitié-là, ou tu l'as découvert au fil de la recherche?
Exactement, on l'a découvert, et Julie et moi, on l'a découvert en se plongeant dans leur biographie, puis c'est ça, c'est vraiment comme ça que c'est né. On a fait, on est super amis, toi puis moi, ces deux-là étaient amis, partons de là, puis voyons où ça nous mène, puis c'est comme ça que c'est né.
On fait comment le choix des chansons? Parce que les deux répertoires sont immenses, oui. On pourrait aller dans les gros hits, puis laisser aller les autres. C'est pas le choix que vous avez fait.
Non, c'est une super...
C'est l'histoire qui décidait des chansons.
Oui, mais c'est une très bonne question dans la mesure où nous autres, il a fallu qu'on se pose la question, au-delà des hits, au-delà des grands, grands succès, il a fallu qu'on se pose la question de quelle chanson choisir. Oui, ça c'était dicté par ce qu'on voulait raconter, ce qu'on avait lu dans les biographies, ce qu'on avait entendu dans les archives sonores qu'on a trouvées, dans des balados, entre autres. Mais le choix des chansons s'est fait beaucoup dans un souci de ne pas alourdir le show non plus. Parce que faut dire que Barbara...
Barbara, c'était intense à Tabarouette.
Ben oui, mais c'est parce que quand tu lis sur sa vie, tu comprends pourquoi c'était intense. Ouais. Parce qu'elle était très, très transparente et elle a vraiment chanté avec beaucoup, beaucoup de transparence et sans pudeur des choses qui lui sont arrivées, des grandes douleurs, des grandes épreuves qu'elle a vécues. Elle les a chantées. Elle les a magnifiées avec sa poésie unique, mais elle a quand même été très, très impudique dans, dans sa façon de se livrer. Ouais. Fait que là, évidemment, ça donnait une flopée de chansons de Barbara assez deep et assez intense. Donc, forcément, il fallait qu'on... Il fallait qu'on trouve une façon d'équilibrer les choses. Donc, ça donne un brel dans le spectacle qui est un peu plus lumineux puis un petit peu plus hop la vie que quand moi, je le faisais tout seul puis que je faisais un tour de chant où là, je me permettais d'aller dans, dans « Ne me quitte pas », dans la chanson des vieux amants, dans, dans des chansons beaucoup plus... dans « Orly », des chansons beaucoup plus profondes et chargées émotivement. Là, je dis pas qu'on s'en, de, qu'on s'en prive complètement, mais... Comme Barbara nous amène dans ces zones-là, il fallait qu'on, qu'on trouve un équilibre. Donc, il a fallu... C'est ça. Ça, ça a donné, par la force des choses, un spectacle où Brel apparaît moins souvent dans, chargé avec, avec c'est ça, ses grandes charges émotives puis ses grands textes très, très intenses. Fait que c'est un peu comme ça que le répertoire s'est choisi, si tu veux. Ouais.
Brel, ça appelle un peu l'acteur aussi parce qu'il y a des chansons... plus comique, où il joue carrément. Quand on regarde des archives de Brel, Les bonbons, c'est un bon exemple. Puis il y en a des comme ça où il joue vraiment.
Oui,
joue, mais
c'est-à-dire que
en quelque part.
Moi, en fait, c'est ce qui m'a, c'est ce qui m'a happé. Dès que j'ai rencontré son répertoire, j'ai fait, mais c'est incroyable, c'est un terrain de jeu extraordinaire pour un acteur. Et Barbara aussi. Barbara, ça tient plus du récit, parce qu'il y a beaucoup de chansons au jeu. Mais comme je le disais, c'est très impudique parce qu'elle se livre vraiment, tu sens vraiment qu'elle raconte ce qu'elle a vécu, alors que Brel met en scène des personnages. Et c'est sûr que pour des acteurs, c'est ça que je dis, c'est un terrain de jeu incroyable parce que là, on a vraiment l'occasion de prendre ce texte-là et de se l'approprier, de dire quelle lumière j'ai envie de mettre, quel angle j'ai envie de choisir dans, dans la façon dont j'aborde telle histoire, tel récit... Puis pour un acteur, c'est extraordinaire. C'est vraiment, vraiment un... Tu sais ça, j'ai pas d'autres mots. C'est vraiment un terrain de jeu extraordinaire pour des acteurs.
On l'a dit tout à l'heure, Barbara, c'est intense. Il y a des bouts très intimes de sa vie. Est-ce qu'il y a des chansons qui ont été complètement enlevées?
Non,
à cause de ça?
Ben, oui. C'est-à-dire que, comme je disais, par rapport à trouver un équilibre dans ce qu'on appelle un pacing de show, un déroulement de show, il faut quand même... se préoccuper de la capacité d'absorption des gens, d'une charge émotive. À un moment donné, il faut que les gens aient un petit moment pour respirer, pour sourire, pour se remettre d'une émotion qu'on vient de leur faire vivre. Puis nous, on trouvait ça très, très important de respecter ça chez les gens. Donc, on a vraiment tissé la trame narrative du show pour pas qu'il y ait pour que quand on a un creux ou quelque chose de plus profond, on est toujours un moment où est-ce qu'on peut remonter un peu avant de replonger, si on a à replonger. Fait que oui, il y a des chansons qu'on a délibérément choisi de ne pas faire. Et pour Brel et pour Barbara, comme je l'expliquais. Mais sinon, ben, par exemple, pis ça, c'est toujours délicat d'en parler, parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas, puis donc qui pognent de quoi quand ils viennent voir le spectacle. Mais par rapport, mettons, à L'Aigle Noir.
Ouais. On l'a pas catché, le sens du texte,
exactement.
J'ai l'impression.
Il y a tout un segment où on entend parler de L'Aigle Noir et on comprend l'histoire derrière la chanson. Et c'est pas une histoire qui est drôle. Je ne vendrai pas de punch, là, parce que vous viendrez voir le spectacle ou vous reviendrez si vous ne l'avez pas compris la première fois. Quoique c'est assez clair. Mais donc, L'Aigle Noir raconte vraiment... une histoire très, très troublante qui est arrivée à Barbara, une histoire familiale. Et c'est une chanson très, très poétique, mais qui est une chanson quand même de dénonciation qui raconte ce traumatisme-là qu'elle a vécu. Et nous, on a fait le choix de ne pas chanter cette chanson-là, qui est la chanson de la blessure, Ce qui est très étrange, parce que ça a été un hit quand c'est sorti, c'est, on l'a compris parce qu'on a lu quelque part que c'était un hit, mais dans les discothèques. C'était un slow dans les discothèques où les gens dansaient là-dessus. Puis elle a laissé ça aller. Barbara a dit, ben non, ça appartient aux gens. Donc, on a choisi de ne pas faire cette chanson-là, donc d'en parler, de raconter l'histoire, mais de ne pas la chanter et de faire la chanson de réparation de la blessure qui est Nantes, qui est une chanson magnifique, très, très touchante, où là, on a l'impression qu'elle fait la paix avec cet événement traumatique-là qu'elle a vécu. Donc, pour répondre à ta question, c'est ça, on a fait certains choix pour justement garder cet équilibre-là au niveau émotif.
Vous avez tout fait dans le show-là, la conception, la mise en scène, c'est vous autres sur scène. Est-ce qu'à un moment donné, c'était beaucoup?
Non, parce qu'on a su bien s'entourer. On a eu Hugo Turgeon, qui est un ami de Julie, qui est venu faire comme l'œil extérieur pour s'assurer que... Parce que c'était important pour nous d'avoir quelqu'un, justement, qui était extérieur à nous et qui pouvait faire, ben ça pourrait être resserré ou ça, vous n'en avez pas besoin. Donc, on a eu de l'aide de l'extérieur et puis on a conçu le spectacle. Mais je veux dire, c'est pas moi qui est à peu près pas manuel. C'est pas moi qui a conçu, disons, la table de loge du décor. C'est pas moi qui a fait l'étoile. Donc il y a toute une équipe derrière, mais non, c'était pas beaucoup. Mais puis ça s'est fait quand même dans l'harmonie parce qu'on s'entend si bien, Julie et moi. Et surtout, on est nous aussi, un peu comme Brel et Barbara, un peu comme un frère puis une sœur. C'est pas pour rien qu'on en a joué pendant 15 ans, un frère puis une sœur. C'est que on est très transparent l'un avec l'autre. On est très cash, comme on dit. Donc, on se gêne pas pour dire quand on n'est pas d'accord avec telle ou telle chose. Puis c'est ça. Puis donc, ça n'a pas été lourd. Mais c'est sûr qu'à l'approche de la première représentation, on se posait plein de questions sur comment ça allait être reçu, évidemment. Mais c'est ça. On est très, très fiers au final du résultat.
Est-ce qu'on se demande avant la première représentation, ça va être qui le public? On se doute qu'une génération oui. qui les a connus.
Oui.
Mais on aimerait bien, j'imagine, qu'il y ait une jeune génération qui soit là.
Oui, c'est ça. Bien, c'est vraiment bien dit. C'est-à-dire que on connaît le public cible, évidemment, qui est issu d'une certaine génération, oui, mais
qui a grandi avec cette musique-là.
Oui, exactement, qui a grandi avec cette musique-là. Mais en effet, il y a ça, il y a le désir puis l'espoir que ça reste intemporel. Parce que moi, c'est ce qui m'avait frappé quand j'ai chanté du Brel pendant toutes ces années-là, c'est qu'il y avait... Il y avait des jeunes, il y avait des gens de mon âge à l'époque, puis il y avait évidemment des gens plus âgés. Puis j'espère que ça se passe de génération en génération, le répertoire de Barbara, le répertoire de Brel. Il faut dire que le répertoire de Barbara, c'est particulier. Les fans de Barbara sont des maniaques, sont des inconditionnels. Quand t'aimes Barbara, c'est à la vie, à la mort, c'est d'une intensité qui ressemble à son intensité à elle. Comme Brel était moins dans le récit personnel, autobiographique, je pense qu'il y a comme un public plus large juste de ce fait-là. Puis il y avait une folie chez Barbara aussi qui parlait à une certaine frange de la population, plus marginalisée peut-être. Donc il y a quelque chose de plus unique dans le public de Barbara, mais le plus beau compliment qu'on puisse entendre, c'est quand les gens sortent de là, c'est « je connaissais pas Barbara tant que ça, puis je l'ai découvert, puis ça me donne envie de... » Ça me donne envie de découvrir son répertoire, puis je vais aller écouter du Barbara. Puis il y en a qui connaissent pas Brel non plus, puis qui étaient beaucoup plus fans de Barbara, inconditionnels, puis qui disent « Ah, ben ça m'a fait découvrir Brel sous un autre angle, donc j'ai envie d'aller en réécouter, puis de me replonger là-dedans. »
Brel est né à ses idées, j'ai l'impression. On le voit avec le numéro sur les Flamandes, oui. entre autres, où il se fait conseiller par Philippe Noireau dans le spectacle, oui. qui vous accompagne, de pas y aller la chanter. C'est pas la bonne place pour faire ça. Oui. Il veut que ce soit la dernière.
Oui, c'est ça. Ben, en fait,
c'est pas ça qu'il fait.
Non, c'est pas ça. Brel avait une tête de, ouais, une tête de cochon. Ouais. On va se le dire. N'ayons pas peur des mots. C'était vraiment une grosse tête de cochon. Ce qui est un peu souvent, en tout cas, dans ces années-là, c'était le propre des artistes qui étaient très intenses. Il y avait comme une rigidité dans certains aspects de leur art qu'ils ne voulaient pas toucher à ça. Puis il aimait ça confronter le public, Brel. Puis c'est ça que ce segment-là dans le spectacle raconte, c'est que, pour l'expliquer aux gens, c'est que Brel, en 1960, il s'en va à Louvain, en Belgique, Puis c'est une ville universitaire où est-ce qu'il y a des étudiants francophones puis flamands. Flamand, c'est l'autre langue en Belgique. Il y a le flamand, il y a même le wallon, mais bon, en tout cas, disons qu'il y a le flamand, puis il y a le français. Et donc, il s'en va dans une ville universitaire où il y a beaucoup, beaucoup de tensions entre les francophones et les flamands. Et la chanson « Les Flamandes », on s'entend, c'est un peu pour niaiser les flamands. Mais les flamandes, surtout. Et là, Brel s'en va à Louvain. Et là, le directeur du théâtre arrive et il fait « Vous pouvez pas chanter les flamandes, ils vont tout péter. C'est des étudiants, ils vont vous lancer des tomates, allez-y pas. » Puis Brel, il fait « Je vais y aller, moi. Je vais le faire pareil. Je vais pas changer, de tune. C'est celle-là que je fais. » Puis il fait « Mais d'abord, chantez-la en dernier, comme ça, vous pourrez juste sacrer votre camp si jamais ça marche pas puis que vous vous faites injurier. » Puis il fait « Non, elle est prévue en septième position. Je vais pas changer ça. » Puis là, il dit « Mais oui, mais les œufs pourris, les tomates, vous allez recevoir ça. Ça vous... » Il fait « Ça m'a jamais arrêté, ça. » Allez, let's go. Puis là, ils ont fait le show. Ils sont arrivés aux Flamandes. À la fin de la chanson, le monde s'est mis à huer. Puis là, ça se battait un peu dans les tribunes. Ça se battait dans la salle. « Bouh, bouh, ouais, ouais. » Donc, il y avait les francophones, les flamands. Ça... Vraiment, il y avait vraiment comme une lutte dans le public. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de huées. Il est sorti de scène, Brel, il est allé dans sa loge. Pendant que ça se passait, bouh, bouh! Tu sais, il y a vraiment comme une grosse crise dans la salle. Il est revenu sur la scène, il s'est retourné vers son orchestre, puis il a dit « Encore! » Puis ils ont recommencé la toune au complet. Puis à la fin de la toune, tout le monde debout. « Ouais, ouais! » Tout le monde a capoté sur la chanson, puis ça a été un gros hit. Donc, il a vraiment, comme on le dit dans le show, il a vraiment joué à quitte au double. Il a dit, je prends le risque que de me faire lancer des tomates, mais ça se peut que ça marche, puis ça se peut qu'ils l'aiment parce que je vais leur faire aimer ma chanson. Et c'est lui qui a gagné parce qu'ils ont trippé sur sa chanson à la fin.
Évidemment, tu le connaissais déjà, Brel. Est-ce qu'en fouillant dans les archives, en ressortant ce que les gens ont dit de lui, ce que lui a dit, est-ce que tu as appris des choses
sur beaucoup. Brel? Oui, beaucoup, parce que quand j'ai fait mon spectacle de Brel, c'était un tour de chant, c'était vraiment un tour de chant beaucoup plus personnel, dans le sens que je prenais la parole entre les chansons. C'est vraiment moi qui interprétais ma vision des chansons de Brel, en tout respect, là. Puis c'était vraiment ça mon but. Alors que là, c'était beaucoup plus biographique, donc avec les éléments d'archives. Donc oui, j'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses sur son caractère. J'ai appris plein de choses sur justement des anecdotes de tournée, des grandes amitiés qu'il y a eues. Ça m'a vraiment permis d'approfondir ma connaissance de l'homme au-delà de l'artiste. Oui.
Ça s'arrête à la mort de Brel?
Ben, pour moi, oui, c'est ça.
L'amitié, non mais... Oui. Le show devait être ça, la trame. La fin, c'est la fin de l'amitié parce qu'il y en a un qui n'est plus là.
Oui, ben oui. On s'est posé des questions, évidemment, sur la fin. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question, Julie et moi, est-ce qu'on offre un rappel aux gens? Parce que souvent, tu sais, c'est comme une espèce de... Je sais pas, il y a comme quelque chose d'acquis au Québec, que quand le spectacle marche, puis les gens...
S'en aller.
On s'en va, puis là, ben
on attend, puis on
revient, puis là, on fait un rappel. Sauf que, comme Brel était mort dans l'histoire, ça devenait une occasion d'offrir une chanson, mais plus en Brel. Donc, c'était comme Renaud et Julie. Il y avait quand même quelque chose qui ne marchait pas, donc on a laissé tomber l'idée. Puis, l'amitié se termine avec la mort de Brel. Mais il y a quelque chose de très beau dans le fait que Barbara a écrit une chanson qui s'appelle « Lettre à Gauguin », qui est lue dans le spectacle. Et qui parle de Brel comme étant Gauguin. Puis comme, en fait, c'est ça. Il y a comme vraiment un bel hommage qu'elle lui fait avant de chanter la dernière chanson du spectacle. Puis c'est ça. Donc, on ne pouvait pas faire autrement une fois que Brel était mort que de terminer ça un peu après. Ouais.
Le souhait, j'imagine, c'est de continuer ce show-là tout le temps, puis peut-être l'Europe.
Oui, c'est ça. En fait, notre grand rêve, ce serait justement de trouver... Et c'est là-dessus qu'on travaille fort puis qu'on a de la misère. Si jamais il y a des producteurs français qui écoutent. Non, en fait, c'est qu'on on a du mal à trouver une porte d'entrée vers l'Europe. Ça prendrait juste une personne qui a vu le spectacle puis qui comprend qu'on a un angle quand même inédit dans notre approche du répertoire de Brel et Barbara pour aller le présenter là-bas. Parce que nous autres, on n'a pas la prétention d'aller leur montrer comment on interprète Brel et Barbara. Sauf que je pense qu'il n'y a jamais eu un spectacle qui a été... fait sur, justement, à partir de cette amitié-là, puis avec ses archives, puis avec des scènes théâtralisées, je pense qu'on tient quelque chose d'unique, puis c'est là-dessus qu'on voudrait miser. Mais cette personne-là, cette porte d'entrée-là, on ne l'a pas trouvée encore, donc on continue à chercher. Mais sinon, oui, notre but, c'est de le faire le plus longtemps possible. On espère que le public se renouvelle, on espère que c'est ça, que là où on est passé, puis que ça a bien marché, les diffuseurs aient l'audace de nous reprogrammer en disant « Mais non, on sait que ça marche bien, Brel et Barbara, parce que les gens, on a eu vraiment des bons commentaires, etc., etc. » Donc, oui, c'est toujours ça le but. On veut que ça dure.
Cette amitié avec Julie se poursuit au-delà de l'auberge, on l'a dit, mais il y a eu aussi une pièce au Rideau Vert où vous avez joué ensemble. Donc,
oui.
Adieu, Monsieur Hoffman. Donc, il y a eu cette amitié-là qui a continué.
Oui,
dans
c'est
plein
ça.
Plein de projets après.
Oui, bien, c'est ça. En fait, on se lâche pas. On se lâche pas. Il y a eu l'auberge, après ça, il y a eu le Caboose Band en tournée. Après ça, il y a eu cette pièce-là.
Qui a eu un drôle de parcours parce que c'était pendant la pandémie.
Oui, c'est-à-dire qu'elle a eu un... Nous, on a été parmi les chanceux. C'est-à-dire qu'on a joué deux fois. On a tout préparé le show. On a joué deux fois. La pandémie est arrivée. On a arrêté. On n'a pas pu jouer le reste de la run. Mais nous, on a eu la chance que ce soit reprogrammé la saison d'après. Donc, on a pu la jouer l'année suivante. D'abord en jauge réduite, puis ensuite en jauge pleine. Et c'est cette année-là, suite au spectacle, qui avait un petit trou dans la programmation et qu'on a proposé à la direction du théâtre, à Denise Filiato, à Céline Marcotte, notre spectacle de Brel et Barbara. Donc, ce qui nous a permis d'aller le jouer là-bas pour les abonnés du Rideau Vert à guichet fermé jusqu'en les jauges sont retombées à 100%. Donc, ça a été trois soirées magiques. Puis, c'est ça. Donc, Julie et moi, on suit. Puis, il y a eu donc ça, où est-ce qu'on jouait mari et femme, ce qui est un peu bizarre, mais en même temps, jouer la complicité, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, je veux dire, bon, ça se fait très bien. Puis, là, ben, il y a eu Brel et Barbara. Puis, aussi, on a préparé un... Parce que Julie et moi, on vient du milieu de la musique classique, tous les deux. Et on a préparé un balado qu'on a écrit, dont on a fait la recherche, qu'on a animé sur la musique classique. Donc, une espèce de balado où est-ce qu'on vulgarise la musique classique ou du moins on en parle. Mais pour nous, la musique classique, on devrait en parler comme on parle de hip-hop, comme on parle de rock, comme on parle de...
Ouais, il faut enlever l'espèce de côté hiérarchique.
Exactement. Ce qui est en train de se passer quand même dans notre société, je pense, avec des initiatives comme celle de l'Orchestre métropolitain, de l'OSM, d'autres ensembles qui justement tendent à dépoussiérer la vision qu'on a du classique. Mais nous, on a vraiment poussé ça plus loin et on a eu beaucoup de fun. C'est très ludique, c'est très... Donc on apprend des choses, mais en même temps, c'est très, très humoristique. Donc on a fait ça ensemble aussi. Puis qui sait où est-ce que ça va nous amener? Ça va être quoi notre prochain projet? C'est pas fini, là.
On t'a revu l'an dernier dans Stat.
Ben oui.
C'était comment jouer cette bulle-là, parce qu'évidemment, c'était autour de ton fils et de ta femme, dans cette histoire-là, c'était comment?
Bien, c'était formidable.
Et dans ce rythme-là, qui est très rapide.
Bien, moi, c'est mon beat. Fait que c'est mon beat, puis c'est... pour moi, ça m'a rassuré sur le métier que j'ai. C'est-à-dire que 15 ans de télé, 15 ans de télé à faire 20 épisodes par année d'une heure, ça te fait acquérir des réflexes de comédien, de jeu. Puis ça te fait connaître c'est quoi un plateau, c'est quoi la technique, c'est quoi les plans de caméra, c'est quoi le langage de tout ça. Et donc, d'arriver sur un plateau où ça se passe vite, ben moi, c'est comme je dis, c'est un peu mon rythme. C'est-à-dire que je trouve ça parfait, il y a moins de répétitions. Donc, tu arrives préparé, tu as travaillé ton affaire. Ça, c'est méga important, par exemple.
Oui, il n'y a pas le temps. Là,
non, il n'y a pas de temps de dire « Oh, je la referais peut-être, j'étais pas
je
tout
la sens
à fait... » Non. T'as besoin de la sentir, crois-moi. Fait que c'est ça. Ça m'a vraiment ravi. D'autant plus qu'il y a eu quand même une surprise, puisqu'il y a eu comme au début de la saison une espèce de semaine ou deux d'intrigue par rapport au personnage d'Henri Picard, de mon fils, qui se terminait de façon un peu ouverte, mais on aurait pu finir là. Puis l'autrice, elle a décidé de nous ramener en fin de saison. Puis ça nous a fait vraiment... c'est vraiment venu comme un beau cadeau, une belle surprise. Fait que non, ça, à chaque fois que ça arrive, ce genre d'opportunité-là, j'apprécie, puis j'en profite au max.
Est-ce qu'avec le recul, on se compte chanceux d'avoir fait 15 ans d'Auberge du Chien-Long? Ça n'arrivera plus jamais.
Ça, c'est sûr que ça n'arrivera plus jamais en télé.
C'était la dernière production télévisée de Radio-Canada.
Ouais, maison de Radio-Canada. Oui. Ah, ça, sans l'ombre d'un doute, on n'a jamais. On a toujours été très, très conscients, je pense, toute l'équipe. En commençant par Pierre et Sylvie, les auteurs, on a toujours été très conscients de ce qu'on faisait. On faisait un téléroman familial, très humain, très léger, sans avoir peur de rentrer dans des sujets plus lourds, puis dans des scènes d'émotion. Mais on savait ce qu'on faisait. Donc, puis surtout, on le faisait pour les gens à la maison. On le faisait pas pour les critiques, on le faisait pas pour le milieu, on faisait pas. Puis on a eu la chance quand même de vivre une révolution complète de la façon de faire de la télé. Parce que quand on a commencé, là, on était encore à tourner à trois caméras avec de la régie live sur le plateau, c'est-à-dire que tu avais le réalisateur en coulisses qui disait « Attention, caméra 1, prends un attention, caméra 2, gros plan, OK, on prend caméra 2. » Alors que maintenant, toutes les caméras roulent tout le temps, puis après ça, il y a quelqu'un qui fait du montage qui décide de quel plan on va prendre. Donc, on a vécu tous ces changements-là, le HD qui est arrivé, le 4K, on a tout vécu ça. Donc, on a quand même beaucoup, beaucoup appris et évolué. Puis, veux pas, 15 ans, même si c'était pas 15 ans, à chaque année, des fois, on savait pas si on revenait l'année d'après, mais c'est quand même 15 ans d'une belle, belle sécurité financière qui a fait qu'on a pu avoir nos enfants, acheter nos maisons. On a vraiment été gâtés. Et donc, je vois pas comment je pourrais avoir le moindre regret d'avoir fait ça pendant 15 ans, d'autant plus que le plus important que je vais toujours retenir de tout ça, c'est la famille qu'on s'est créée et qui va rester à la vie, à la mort. C'est-à-dire que même si on se voit pas, même si on se voit jamais, ça va toujours rester des gens que quand je vais les croiser, on va avoir ça en commun, puis on va avoir ce respect-là puis cet amour-là les uns pour les autres. Puis ça vaut tout l'or du monde.
Et il y avait beaucoup de jeunes acteurs,
oui,
qui ont commencé à avoir des familles pendant ce show-là.
Oui, exact.
Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup, à la fin, il y avait beaucoup d'enfants.
Ah oui, je me rappelle plus du compte, mais il y en a eu des enfants qui sont nés pendant l'auberge énormément. Beaucoup, beaucoup. Une usine à bébés. Une usine à bébés, l'auberge chien.
Est-ce que c'était un deuil à la fin?
Ah oui.
C'est pire, il me semble. C'est un métier de deuil, évidemment, on le sait.
Tout le temps.
Mais après 15 ans, le deuil doit faire plus mal qu'après une production théâtrale, par exemple, qui dure quelques mois.
Oui. Ah oui, oui, non, c'est proportionnel. C'est proportionnel. Des fois, après un deuil, après une run de théâtre, on peut être quelques jours à ressentir un vide parce qu'on joue plus, parce qu'on voit plus ces gens-là qu'on a côtoyés intensément, mais l'auberge, c'est 15 ans. C'est 15 ans d'arriver sur la chaise de maquillage à 6h30, tout croche, puis vous pouvez répondre, c'est bien correct. Donc, c'est 15 ans de routine avec des gens. Puis ça prend beaucoup plus de temps à éponger, puis à passer à travers toutes les étapes du deuil, là, comme ils disent en psychologie pop. Il y a des étapes à vivre, puis c'est ça. Puis, fait que oui, ça a été un gros deuil, ça a été un gros deuil. Surtout, encore là, de la gang, ça a été un gros deuil.
Vous allez être à la 5e salle de la Place des Arts le 4 octobre prochain, qui devient comme un peu la première montréalaise.
Oui, une espèce de grande rentrée montréalaise.
Un an et demi après le début de la tournée.
Oui. Puis non seulement ça...
Puis c'est la supplémentaire d'un show qui est en novembre.
Exactement.
Qui est avant le show de novembre. Finalement.
C'est très drôle parce qu'hier soir, on était à Longueuil, au Théâtre de la Ville, et c'était aussi la supplémentaire, mais c'était notre premier spectacle à Longueuil. Donc, c'est très bizarre, ces supplémentaires qui sont avant les spectacles annoncés. Mais on prend tout ce qui passe parce que c'est tellement des belles nouvelles, des supplémentaires. Donc, on est vraiment contents.
Et le show de Montréal sera quelques jours avant le 45e anniversaire du décès de Jacques Brel.
Eh bien, tu me l'apprends, mais oui, c'est formidable. Quelle belle synchronicité, j'aime ça.
Ça tombe bien. Wow, en tout cas.
Non, mais oui, je comprends.
Et plus près, vous serez à Drummondville au mois d'octobre aussi, le 22 octobre.
Oui, toutes les dates sont sur le productionmartinleclerc.com, je pense. Oui.
Renaud, l'année prochaine, ce sera 25 ans de carrière pour toi. Ah. Tu as quitté l'école de théâtre en 99.
Bon, ben c'est ça, ça fait vraiment longtemps. Oui, c'est ça, il me pousse une canne, là. Non, je...
Privilège, non, d'abord?
Oui, privilège. Non, parce que, oui, pour vrai, puis c'est... Je suis très sérieux quand je le dis. Il y a Marcel Sabourin à l'école qu'on avait eu comme professeur barre oblique conférencier parce que
oui,
quand
oui.
Marcel part, tu le laisses aller puis tu te nourris de tout ce qu'il dit. Puis le cours a beau être fini, lui, il continuerait. Mais quel bonheur de l'avoir croisé. Et lui, ce qu'il disait, le plus dur dans ce métier-là, c'est pas de percer, c'est de durer. Fait que moi, qui arrive justement à ce cap-là l'année prochaine, puis qui n'a jamais arrêté, je me considère vraiment privilégié, puis je savoure ça à chaque fois que j'ai la chance de me produire sur scène ou même d'aller faire du doublage ou peu importe c'est quoi. Je me considère vraiment chanceux d'avoir pu faire ce métier-là puis en vivre depuis toutes ces années-là. Ouais.
Tu as fait partie du spectacle Le Tour du Bloc.
Oui.
Soulignant les 50 ans de carrière.
Et ça, c'est un rêve.
Michel Rivard, j'imagine qu'il y a quelque chose de... il y a énormément de monde sur scène. Déjà, ça, c'est rare.
Oui, un gros show avec une douzaine de musiciens en tout. Ouais,
j'imagine qu'il y a un côté privilégié d'être sur la même scène puis de chanter les mots de Rivard avec Rivard.
Okay, comme je te disais, hors d'onde, c'est un rêve. Puis c'est un... Là, les jeunes, écoutez ça. Là, c'est mon oncle Renaud qui vous dit que quand on y croit... puis qu'on demande, ça se peut que ça arrive parce que mon oncle, là, il a écrit à Michel Rivard puis il a dit, je le connaissais un peu, là, faut mettre les choses en contexte, je le connaissais un peu, mais je lui ai écrit quand j'ai su que cette tournée-là, j'ai lu ça dans le journal comme n'importe qui, là, j'ai vu Michel Rivard prépare une tournée pour ses 50 ans de carrière, j'ai fait, mon Dieu, quel rêve ce serait de chanter avec lui, d'être choriste, bon. Fait que je lui ai écrit. Puis je lui ai écrit, si jamais tu as besoin de quelqu'un qui peut jouer des claviers aussi, en plus de chanter, puis des percussions, puis joue aussi un peu de trompette, gnagnagna. Puis lui, il a accroché sa trompette, il dit, tu joues de la trompette, ça c'est intéressant. Il dit, on peut-tu se parler? Puis finalement, on s'est parlé, puis j'ai débarqué dans l'équipe. Donc moi, en tout cas, c'est une belle leçon de dire, garde, quand tu veux quelque chose, demande-le. Le pire qui peut arriver, c'est que tu vas te faire dire non, mais c'est pas grave, au moins t'auras pris ta chance. Puis évidemment, tout l'hiver dernier, ça a été une tournée extraordinaire. Puis en effet, c'est un privilège de voir, c'est comme une classe de maître en chanson, puis en théâtre aussi, parce qu'il fait des monologues dans le spectacle. Ouais. Puis donc, à chaque soir, d'être privilégié, d'être un témoin de ça, sur la scène, de chanter avec lui ces mots-là que j'ai entendus tellement souvent. Puis surtout, c'est ce que je te disais hors d'onde, c'est que Michel Rivard, il a toujours fait partie de nos vies, on dirait. Il jalonne plein d'événements de nos vies. Donc, on entend une chanson, puis ça nous fait penser, ah oui, quand j'ai entendu ça la première fois, je vivais une peine d'amour, ou je venais d'avoir mon premier enfant. Bon, il y a comme quelque chose qui fait que ça tisse la trame de nos vies depuis 50 ans. Donc, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire d'avoir pu vivre ça cet hiver. Puis évidemment, c'est pas fini. Moi, je suis plus sur la tournée là, pour les dates qui s'en viennent, mais allez voir ce spectacle-là. C'est extraordinaire. Ouais.
Et dans les autres projets, il y a la Corriveau?
Oui, la Corriveau, qu'on a la chance, après deux étés, de poursuivre cet hiver en tournée. Donc, un peu partout. C'est un projet extraordinaire, c'est un projet de cœur, porté par une équipe, l'équipe du Théâtre de l'Œil Ouvert, qui est une équipe d'un dynamisme incroyable. Et c'est un show pour lequel j'ai changé de rôle aussi. C'est-à-dire que le premier été, je faisais Maître Saillant, qui était l'avocat de la Corriveau. Et cet été, j'ai chaussé les grands, très grands souliers de Jean Maheu en endossant le rôle du père de la Corriveau. Donc, un été plus chargé au niveau émotif quand même, parce que le père de la Corriveau, il était beaucoup plus lourd en termes d'émotivité, là. Mais quel grand bonheur de porter cette histoire-là qui résonne encore aujourd'hui, puis qu'on fait, c'est ça, à partir de janvier, je pense, jusqu'en avril, on fait ça au Québec. Ouais.
Renaud, merci d'avoir été là.
Hey, c'est un plaisir.
J'ai invité les gens à aller à productionmartinleclerc.com pour voir tous les détails pour la tournée.
On a aussi une page Facebook, là. Oui.
Merci encore. Merci aux gens qui se sont déplacés.
Merci à vous tous. Merci.